Bonjour bien-aimé. Je voudrais relire avec vous le psaume, je crois que c'était le psaume 118. À partir du verset 5. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu. Il m'a délivré. L'Éternel est pour moi. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je regarde mes ennemis en face. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Toutes les nations m'entouraient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient, m'encerclaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de ronce. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me bousculais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai que l'Éternel, ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a corrigé, mais il ne veut pas me livrer à la mort. Amen. Voilà, que ces quelques paroles soient des paroles d'encouragement. Que ce psaume, pour ceux qui traversent des situations un peu particulières, qu'en cette semaine, ce psaume soit votre référence. Que ce psaume puisse vous encourager. Si Dieu met un texte au cœur de ceux qui servent le Seigneur, c'est certainement pour quelques-uns. Et si Stéphane nous a proposé ce psaume, je pense que Dieu, voilà, veut qu'il s'adresse à quelques-uns d'entre nous dans des situations particulières. Nous continuons notre enseignement toujours sur la question du service de Dieu. Le dimanche dernier, nous avons, dans le texte de 1 Pierre chapitre 2, 4 à 10, nous avons parlé de cette pierre vivante qui est le Seigneur, cette fondation, ce fondement solide sur lequel l'Église est construite. Et que l'Église, finalement, c'est nous, la maison de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes. Chacun de nous est une pierre de cet édifice. Et Dieu le dit clairement dans cette épître à Pierre, dans cette épître que Pierre écrit. Pardon. Et nous avons lu ce texte, n'est-ce pas? Et le verset 5 de ce 1 Pierre 2 nous disait: vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit. Donc c'est une affirmation, hein, que chaque chrétien, chaque chrétienne est une pierre vivante. Et que nous sommes aussi une nation, une nouvelle nation, n'est-ce pas? Nous sommes un peuple de serviteurs. En même temps, nous sommes des rois et des reines. C'est incroyable, hein? Il y a un contraste, n'est-ce pas? Être serviteur et être roi. Mais Jésus était comme ça. C'est le serviteur souffrant, mais le roi des rois, n'est-ce pas? Et il a montré bien l'exemple en étant en même temps au service, en gardant son autorité. Et il a dit à ses disciples: n'est-ce pas que je suis votre maître? Mais je suis là et je vous sers. Et c'est cet exemple qui est le nôtre. Et nous avons rappelé ces choses. Juste peut-être corriger une chose que j'ai dite qui n'était pas tout à fait exacte par rapport au texte. Donc quand j'ai parlé des talents, dans la parabole des talents, Matthieu 25, vous savez, quand le maître distribue les talents, il distribue 5, 3 et 1. C'est vrai, c'est 3. Voilà, donc ayons des bons réflexes. La parole est là, vous avez la Bible, vous l'ouvrez. C'est ça qu'il faut faire. Moi, j'aime bien que nous, en tant que chrétiens, nous vérifions aussi dans la lecture. C'est pour ça qu'on affiche aussi les textes ici à l'église, et c'est très bien. Donc, j'avais dit qu'en fait, le deuxième serviteur avait reçu 3 talents, mais en fait, c'est pas 3, c'est 2. Voilà. OK. Donc, il donne 5 au premier, 2 au second et 1 au troisième. Et nous avons évoqué cette question de talent par rapport au service de Dieu. Et ce matin, on va continuer dans ce service du Seigneur avec des textes que nous connaissons pour ceux qui sont plus anciens qui ont une culture biblique par rapport au don spirituel. Et je vais l'aborder dans un texte qui est un texte calme, hein, parce qu'il y a des textes qui sont des textes agités. Hein, je vous explique. L'épître aux Corinthiens, quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, c'est parce qu'il y a des problèmes dans l'église de Corinthe. Donc c'est une épître que l'apôtre Paul écrit pour régler des situations dans une église un peu troublée. Donc c'est une épître agitée, dans le sens où il écrit pour répondre à des situations précises. Par contre, l'épître aux Romains, c'est une épître qu'il a écrite en toute sérénité. Ça ne répond pas à une situation précise d'église, mais ça répond à expliquer la doctrine chrétienne. Donc il prend le temps d'expliquer dans l'épître aux Romains. Il établit la doctrine. C'est pour ça que je me permets de dire cela. Mais avant d'aborder ce texte de ce matin, ça sera dans Romains 12. Hein. C'est un texte qu'on a commencé à voir. On a vu les 3 premiers versets, n'est-ce pas? Mais là, on verra les 6 versets qui suivent à partir du verset 3. Mais avant d'aborder le texte de Romains, j'aimerais lire une prière. Tu peux l'afficher, s'il te plaît, Eric. Donc voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. Hein. Don spirituel, je suis chrétien, je suis engagé pour Dieu, l'Église et mon prochain. Donc, j'ai pas mis comme une interrogation ni comme une exclamation. Je crois que tout chrétien peut dire ça. Et si tout chrétien peut pas dire ça, c'est qu'on a des progrès à faire, n'est-ce pas? Je suis chrétien. En principe, ça veut dire que je suis engagé. En principe, ça veut dire que je suis dans le service et de Dieu et de l'Église et du prochain. Et on verra un peu les détails tout à l'heure. Mais il y a quelqu'un qui a pensé à ça et qui a fait une prière dans ce sens-là. Et c'est la diapo d'après. Voilà, c'est tout petit pour ceux qui ont de bons yeux pourront voir, mais je ferai la lecture. Donc c'est un certain André Dumas, dans l'un de ses livres qu'il appelle « Quand je pense à l'Église ». Ok, il a un livre de recueil de prières. Et en le lisant, c'est vrai que cette prière m'a touché il y a bien longtemps. Et je l'ai intégré dans ce message d'aujourd'hui. Je lis cette prière. Il dit « Quand je pense à l'Église, je la voudrais telle qu'elle n'est pas. Attirante, engageante, percutante, militante, sans doute aussi variée et universelle, secrète et évidente, riche et nourricière, pauvre et véridique, surprenante et solide. Bref, j'aimerais, mon Dieu, que ton Église, qui est notre Église, m'offre tout ce que je ne lui donne pas. Tu la connais aussi bien et mieux que moi, cette Église, qui fume souvent à peine comme une bougie épuisée. Tu la connais trop petite pour ta grandeur et trop grande aussi pour notre petitesse. Une église mal aimée et du coup mal aimante. Une église dont la fidélité devient répétitive et l'infidélité habituelle. Une église qui se paie de mots et qui contribue à enténébrer la vie de bons sentiments inutiles et d'accusations décourageantes. » Donc il a une expérience d'église un peu brisante, parce qu'il a vécu des choses qui... Voilà. Et donc, il formule sa prière, il continue. « Alors, mon Dieu, fais que je cesse de blâmer l'Église pour me dispenser moi-même d'y travailler. Fais que je cesse de lorgner ses déficiences par le trou de la serrure pour me protéger moi-même de franchir sa porte. Fais que je quitte le banc des spectateurs et des moqueurs pour m'asseoir au banc des acteurs et des célébrants. Car ainsi seulement, je m'arrêterai de regarder ton Église, qui est notre Église, pour y vivre avec les autres. Tu la convoques et tu la rassembles de jour en jour, comme sans cesse le berger rattrape les brebis qui boitent et qui s'attardent, comme sans cesse la raccommodeuse rattrape les mailles qui filent et qui déchirent. Ton Fils est la tête d'un corps aux membres disjoints. Il est le premier-né d'une famille d'enfants séparés. Il est la pierre angulaire d'une maison inachevée. Mais c'est bien à l'Église que tu tiens, et non pas seulement aux individus, qui se préfèrent chacun eux-mêmes. car c'est bien à l'humanité entière que tu tiens, et non pas seulement aux membres d'un club. Ton Église est ainsi le signe visible de ton dessein total. J'hésite à l'appeler ma mère, car elle ne m'a pas engendré, mais je l'ai rencontrée. J'hésite à l'appeler ma sœur, car nous ne sommes pas liés par l'obscurité du sang, mais par la liberté de l'esprit. Mais je veux bien l'appeler ma famille, car je lui suis attaché pour le pire et pour le meilleur. C'est ma nouvelle famille dont tu es l'initiateur, ton fils le libérateur et ton esprit le rassembleur. Amen. Quand tu lis une prière comme ça, tu dis oui, il y a des choses profondes, n'est-ce pas? Il y a des choses profondes. Donc il fait un constat. Sur ce constat, il prie Dieu. Et il parle à lui-même. Et moi, ce qui m'a marqué dans cette prière, c'est quand il dit, je vais arrêter d'être un spectateur. Parce qu'un spectateur, quel que soit le spectacle qu'il va voir, il a toujours un commentaire à faire. Et les meilleurs des spectateurs, c'est ceux qui assistent aux matchs sportifs. Les meilleurs footballeurs, c'est eux qui sont assis dans le divan. Mais il n'a pas vu, il aurait dit tirer comme ça. On est toujours mieux que le meilleur des joueurs sur le terrain. Prends un ballon et descends sur le terrain. Et tu verras si c'est si facile que ça. On a le meilleur rôle quand on est spectateur. Parce qu'on voit tout. Parce que de la position là où on est, on voit tout. Mais le joueur, il ne voit pas tout parce qu'il est dans l'action. Donc quand il dit, aide-moi à quitter le rôle de spectateur. Parce qu'en tant que spectateur, je ne vois que tout ce qui ne marche pas. Et je suis désolé de le dire, parfois, ceux qui ne sont pas dans l'action dans l'église voient tout ce qui ne marche pas. Quand on commence à se mettre dans l'action, là on se rend compte que ce n'est pas aussi évident. Que chacun, chaque sœur, chaque frère qui s'engage, ils ont du mérite. Et que si on s'engageait, ça nous aidait tous à aller de l'avant. Et c'est sur cette base que l'apôtre Paul écrit donc à l'église de Rome, par rapport à l'église. N'est-ce pas? Romains chapitre 12, versets 3 à 9. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Amen. Voilà un texte qui commence par ce que nous avons déjà dit sur plusieurs dimanches. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et qui aboutit à ces 6 versets que nous venons de lire. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Il annonce déjà à partir du verset 3 que chacun doit savoir où il en est, n'est-ce pas? Il dit, si nous sommes transformés par le moment de l'intelligence, la première démarche qui est la nôtre, chacun pour sa part, c'est de nous apprécier à notre juste valeur. Pas d'abord de nous apprécier par rapport à l'autre. Je m'apprécie d'abord par rapport à moi-même. Pas par rapport à l'autre. Avoir une opinion modeste de nous-mêmes dans le service de Dieu et du prochain. La sagesse, selon ce que Paul dit là, consiste à se régler soi-même, à se régler sur la diversité des bien-aimés frères et sœurs dans la condition que Dieu m'a assignée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je prends un exemple. Je suis au service de l'Église en tant que pasteur. C'est un service, n'est-ce pas? Mais ce service, doit pas me monter à la tête. Je ne suis pas plus que vous. Je suis comme vous. Mais mon service est le service pastoral. Et je dois apprécier chaque frère, chaque sœur, avec les qualités, les dons qu'il a. Les regarder comme mes égaux. Je suis responsable du groupe de jeunes. Est-ce que je suis le spécialiste de la jeunesse de l'Église? Ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est que j'ai accepté de servir les jeunes de mon Église. Est-ce que je suis plus que celle qui est responsable de l'école du dimanche? Non. On est pareil. Mais chacun a son service. Et c'est cette modestie, c'est ce regard qui nous rend humbles dans le service et qui fait qu'on ne se prend pas la tête les uns les autres. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Romains, il avait déjà réglé un certain nombre de problèmes dans d'autres églises. Donc quand il écrit cette lettre, il assoit maintenant les choses de façon saine. Il dit voilà comment vous devez rentrer dans le service de Dieu. Avec modestie. Avec simplicité. Avec humilité. Car il s'agit de servir et non pas de dominer, n'est-ce pas? Si on vient servir, on ne peut pas venir servir avec une autre attitude que l'attitude de la modestie. Et il va expliquer pourquoi, justement. Et quand on lit dans l'épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, je ne l'ai pas là, mais vous l'avez dans vos textes bibliques. Oui, c'est bien que tu laisses ça, c'est le thème que sur cette partie-là. 1 Corinthiens 4, verset 7 dit, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Donc il dit, qu'est-ce qui fait ta particularité? Ce qui fait ta particularité, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc si tu l'as reçu de Dieu, est-ce que tu peux en être orgueilleux? Parce qu'en fait, tu l'as reçu de Dieu. Et c'est dans la même pensée qu'il dit ça. Ce que tu es, mon frère, les qualités que tu as, que ce soit ici dans le service ou que ce soit à l'extérieur, si tu es chrétien, tu reconnais que c'est Dieu qui te fait cette grâce-là. Et si c'est Dieu qui te fait cette grâce, comment est-ce que tu peux te prendre la tête? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu veux te glorifier? Il y a un appel à l'humilité, à la simplicité. Quand nous pensons à nous-mêmes, nous devons toujours penser à quel point est bonne la grâce de Dieu qui est en nous. Parce que c'est finalement le Seigneur, lui, qui nous donne la force de faire les choses que nous faisons et que nous savons faire bien. C'est Dieu qui nous donne la force, n'est-ce pas? Le monde ne le sait pas, ou le monde ne le vit pas, ou quelques gens qui ne sont pas chrétiens disent « J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Je n'ai pas été beaucoup malade. Je n'ai pas connu beaucoup de difficultés. » Ils disent comme ça, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Et ils ont raison. Parce que le nom de la chance, ils ne la connaissent pas. C'est Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils disent, j'ai eu beaucoup de chance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la santé que tu as, aussi fragile ou aussi forte que tu as, c'est une grâce de Dieu. N'est-ce pas qu'on dit que notre premier capital, c'est notre santé? Et qui nous donne la vie, c'est Dieu. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et chacun de nous, dans son contexte, doit reconnaître les grâces de Dieu. Il y a des contextes qui sont bien pires que les nôtres, frères et sœurs. Bien pires. On raconte l'histoire de cette personne qui était très, très, très détruite par son état social, parce qu'elle était beaucoup pauvre, semble-t-il. Et que comme elle n'avait pas Dieu, comme d'habitude, quand on est désespéré, quand on n'a plus d'espoir et qu'on pense qu'on est le pire des pires du monde, on veut se donner, finir avec sa vie, se suicider. Et il semble que voilà, il avait fait cette démarche de se suicider. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais on la raconte cette anecdote. Il n'a plus le temps de placer les chabots, de mettre la corde et de se pendre. Il semble-t-il qu'au moment où il a fait tout ça, qu'il a mis la corde au cou, qu'il fallait faire le petit geste pour pousser le tabouret en bas et se prendre le... Bref. Et là, il voit quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui est encore plus dans une situation pire que lui, il n'avait jamais imaginé qu'il y avait quelqu'un qui serait aussi pire que lui. Et là, il dit, mais ça ne vaut pas la peine. Moi qui croyais qu'il était le dernier des derniers du monde, il y a encore plus bas que moi. Bah, ça ne vaut pas la peine. On raconte cette anecdote pour dire, parfois on a l'impression qu'on a touché le fond de chez le fond et que vraiment on est le pire et que voilà, on est le misérable de chez le misérable et que vraiment ça ne vaut plus la peine parce que... Il faut toujours se dire que c'est relatif. Que c'est relatif. Et que la situation que nous vivons, aussi difficile soit-elle, il y en a qui vivent encore pire. C'est pour ça qu'on dit aux chrétiens, quelle que soit ta situation, rends grâce à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut demeurer dans cette situation, mais ça veut dire qu'il ne faut pas t'apitoyer plus que nécessaire. Qui de vous, de par ses soucis, peut ajouter ne serait-ce qu'une tierce de seconde à la durée de sa vie? Au contraire, ça va blanchir les cheveux plus. Et ça va même écourter la vie parce qu'il semble-t-il, si on est trop anxieux, en fait, on est susceptible d'avoir des maladies psychosomatiques. Donc, en fait, on dégrade encore sa santé. Pour revenir à nos thèses, dans le service de Dieu, il faut être humble. Dans l'Église, nous qui sommes des chrétiens, notre premier réflexe quand on sert Dieu, quand on pense au service de Dieu, c'est la modestie. Parce que finalement, qui nous donne de servir, c'est Dieu. Qui nous rend capable de servir, c'est lui. Qui crée des conditions pour que nous acquérions des capacités ou des talents, c'est encore lui. Donc en définitive, c'est lui. Et la Bible dit selon la mesure de foi de chacun. Selon la mesure de foi de chacun. Dieu sait comment il distribue les dons et les talents, comment il nous donne des circonstances, des situations pour que nous acquérions des capacités en fonction de la mesure de foi que nous avons. C'est pour ça que je ne peux pas être envieux quand je vois quelqu'un qui, je ne sais pas moi, d'après nos critères humains, voilà, qui réussit dans son ministère, son titre, qui a une église de 4000 membres, de 10000 membres. C'est la mesure de foi qu'il a. Mais quand on dit la mesure de foi, ça n'est pas dit que si moi j'ai une église de 20 membres, j'ai moins de foi que lui. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans sa situation, Dieu savait qu'il voulait l'utiliser pour 10 000 membres. Et que dans ma situation, Dieu savait qu'il voulait m'utiliser pour 20 membres. C'est ça que ça veut dire. Et le critère, ce n'est pas le nombre, c'est la fidélité de chaque serviteur. On l'a bien vu dans ta parabole des talents. 5, 2 et 1. Et à la fin, chacun rend compte et dit le même compliment à celui qui a reçu 5 qu'à celui qui en a reçu 2. C'est le même compliment. C'est notre modestie aussi en tant qu'église. Peu importe la taille de l'église que nous sommes, on n'a pas à rougir de la taille. On a juste à dire, c'est notre taille. On va déjà l'assumer et puis on va voir comment Dieu nous aide à aller plus loin. C'est ça qu'il faut faire. Sinon après on rentre, ouais, là-bas, ils sont plus. Mais ça c'est là-bas. Nous on est ici. Et Dieu sait pourquoi on est ici. Et c'est ça qui nous encourage, frères et sœurs. Selon le don et la mesure de foi que Dieu fait à chacun. Avec modestie. 4 à 5. Nous sommes un corps. On ne va pas le rappeler. Enfin, on ne va pas cesser de le rappeler parce que pédagogiquement, les apôtres le rappellent. Nous sommes le corps de Christ, hein? Cette question de l'unité. Nous sommes un seul corps, mais avec plusieurs parties qui sont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, dans l'union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Paul retient ici, dans cette épître, l'idée de la complémentarité indispensable. C'est la même image, enfin c'est la même leçon, mais pas avec la même image. Dans 1 Pierre, c'était l'image de la construction, n'est-ce pas? Chaque pierre vivante, les unes sur les autres. Si une pierre défaille, bah c'est tout l'édifice qui risque de tomber. Ici, c'est l'idée du corps. Dans le corps, chaque membre a son utilité. Quand un membre est en panne, on est malade. C'est pas vrai? La maladie vient d'une défaillance d'un membre de nos corps. Donc, la même idée. Nous sommes dans une complémentarité indispensable. Si l'un de nous défaille, nous défaillons tous. Parfois, on ne le sent pas. Parce que cette défaillance n'est pas forcément matérielle. Mais qu'elle est d'abord spirituelle. Qu'elle est d'abord spirituelle. Donc, c'est une invitation non seulement à être modeste, mais à considérer que Dieu nous aime tellement que chacun de nous est important finalement. Et que mon rôle, et que ma présence, et que mon service est aussi important que celui de mon frère, que celui de ma sœur. Et c'est pour cela que dans la prière d'André Dumas, il dit « Fais que je ne sois pas un spectateur. » Vous connaissez une partie du corps qui est spectateur? Il n'y en a pas. Si une partie du corps commence à être spectateur, ça veut dire qu'il commence à ne plus fonctionner. Mais dès qu'il ne fonctionne pas, c'est la santé qui prend un coup. Même notre cerveau, quand on dort, il paraît qu'il est au repos, mais il a d'autres fonctions. Il n'est plus aussi actif dans tout ce qu'on peut faire parce qu'on est ensommeillé, mais il nous fait faire des rêves. Il semble qu'il ouvre des portes même pour nous faire faire des cauchemars entre notre subconscient et notre inconscient. Donc, mine de rien, en fait, c'est une fonction qui est toujours en veille. Vous savez, l'ordinateur, comme on était en veille, il n'est jamais éteint. Mais il est en veille. Donc, dans le corps, il n'y a aucune partie qui est passive. Il n'y a aucune partie qui ne fonctionne pas. Elle peut être en veille, mais même en veille, elle fonctionne. Cette partie-là. Se tenir à l'écart ou rester passif, c'est à la fois se condamner à s'appauvrir, mais aussi à appauvrir l'assemblée. L'idée, c'est qu'on est tous importants aux yeux de Dieu une fois qu'on est engagé dans une église. Tous. Et que si on se met à l'écart, on s'appauvrit soi-même. Mais en s'appauvrissant, en fait, on appauvrit aussi les autres. Parce que Dieu aurait bien voulu que notre apport enrichisse l'église. Et c'est pour cela qu'il y a une mauvaise théologie qui court ces temps-ci. C'est les églises maintenant, c'est l'église, c'est l'église de maison. Moi, je peux faire mon église chez moi à la maison. De toutes les façons, je suis l'église de Dieu. Toi seul, tu es l'église de Dieu. Non, la Bible n'a jamais dit que tu es l'église. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. C'est différent d'être l'église. L'église, c'est le rassemblement de tous les chrétiens. Puisque Dieu a fait des dons à d'autres aussi bien qu'à moi, personne de nous n'a le monopole. Et c'est pour cela que parfois les regards croisés peut-être un peu mesquins ou un peu méchants de certaines églises qui peut-être sont grandes et fortes sur des petites églises, je me dis, c'est pas très chrétien. Parce que qui a le monopole du Saint-Esprit? Est-ce parce que tu es grand que l'Esprit de Dieu est chez toi? Je ne suis pas sûr que la quantité soit toujours le critère de la présence du Saint-Esprit. Sinon, il y a d'autres lieux où le Saint-Esprit serait parce qu'il y a beaucoup plus de monde là-bas. Si tu es grand, bénis Dieu. C'est la grâce que tu as reçue de Dieu. Mais que tu sois dans cette vue de hauteur sur les autres, ça ne sert à rien. Parce que parfois, les autres petits, ils ont une qualité, c'est la fidélité. La fidélité, l'endurance, l'engagement. Ça fait toujours beau d'aller là où il y a tout le monde, là où c'est grand, n'est-ce pas? Parce que on est tous un peu comme ça. À part quelques-uns qui aiment les petites choses. Mais on est tous un peu comme ça parce qu'on a toujours l'idée que voilà, c'est bien organisé. Je me suis toujours convaincu que si on est petit, mais si on s'engage tous, on va arriver à faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Ce n'est pas la petitesse, c'est l'engagement de chacun. Et parfois, ceux qui sont allés dans de grands manches, un truc, ils sont sortis en disant, « Ah, je pensais, mais finalement... » Et là, je ne critique pas. J'observe juste que parfois, on n'a pas les bons critères, on n'a pas les bonnes lunettes pour apprécier la grâce de Dieu. Nous sommes tous membres les uns des autres et nous appartenons à Jésus. Et il dit finalement, si on grandit dans ce service avec la modestie, si on a compris qu'on est tous complémentaires, mais indispensables les uns aux autres, alors on va commencer à servir. Et pour commencer à servir, comment je peux savoir mon service dans l'église de Dieu? Bah, il dit, je vais vous donner des indications. Verset 6 et 7. Verset 6. Et nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Dans le texte original, en fait, le thème ici, nous avons des dons, c'est une affirmation. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà. Donc il n'est pas en train de dire, peut-être que tu vas avoir. Non, Paul affirme aux chrétiens que nous avons tous des dons. Tous. Ça veut dire que chaque chrétien a un don. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on appelle don? C'est là que parfois on se perd dans beaucoup de supputations, de théories peut-être dites spirituelles, mais qui ne sont pas du tout. Il faut prendre parfois les mots bibliques tels qu'ils sont. Le don, bibliquement, c'est un charisme. Un charisme, c'est quelque chose que Dieu donne gratuitement. C'est tout ce que ça veut dire. Mais parfois, on a extrapolé, genre, voilà, c'est mystique, c'est super spirituel. Non. On a bien vu tout à l'heure que qui nous donne ce que nous faisons déjà? C'est Dieu. Qui crée des occasions pour que je sois à tel poste, à tel métier, dans telle famille? C'est Dieu. Et pour le service de Dieu, c'est pareil. C'est aussi pareil. Il faut enlever d'abord tout l'aspect mystique, extra-spirituel, et le prendre simplement. Il a bien parlé de l'image du corps. Donc Dieu ne peut pas rassembler ses enfants sans donner à chacun quelque chose à faire pour que le corps marche bien. C'est pas possible. S'il a décidé qu'on soit son corps, c'est justement parce que déjà il a résolu que chacun de nous allait être utile dans l'œuvre de Dieu. Et pour l'église, ça se manifeste par des capacités variées, diverses, que Dieu accorde à chacun, chacune d'entre nous, n'est-ce pas? On est en 2099, il y a 19 ans en arrière, si on m'avait dit que je serais pasteur, c'était presque impossible. Parce que j'étais encore un étudiant en économie et que je rêvais de travailler dans les finances. Même si j'étais déjà chrétien et que je jamais servi Dieu dans l'église. Et puis au fil des années, les choses ont continué. Donc pour dire parfois, les dons spirituels, ce n'est pas quelque chose qu'on a de façon innée. Cette idée-là, elle n'est pas très biblique. Mais c'est Dieu qui nous accompagne dans notre cheminement et qui nous donne de discerner le service qui est le nôtre. Même si quelque part, quelquefois, on a peut-être un début de quelque chose déjà. Donc il dit ici, il va citer quelques-uns qui sont des dons précis. Et deux types de dons. J'ai introduit ça aujourd'hui et je finirai dimanche prochain. Donc, deux types de dons, n'est-ce pas? Il y a les dons qu'on appelle les ministères de parole, donc c'est les services de la parole, et les dons qu'on appelle les services pratiques, ce qu'on appelait la diaconie ou le diaconat, et que parfois on a pris des sciences techniques. Donc, le service de la parole, il y a la prophétie, il y a l'enseignement, il y a l'exhortation, il y a le service, et la deuxième catégorie, il y a le service, la libéralité, la direction et la miséricorde. Et dimanche prochain, on verra qu'il y a un panel assez large qui dérive de ces deux grandes catégories-là. Et peut-être que pour fermer ma parenthèse ce matin, quand on parle par exemple du don d'enseignement, on pense à qui? Je vous pose la question. Si on parle du don d'enseignement, vous pensez à qui? Tout de suite. Oh pasteur, bah évidemment. Mais c'est juste en plus. Mais le don d'enseignement, il n'y a pas que le pasteur. Il y a les monitrices et moniteurs. Parce qu'ils sont des enseignants. Ils enseignent les enfants. Je suis allé ce matin, depuis deux dimanches, je vais quand même commencer le culte avec eux. Je suis toujours impressionné quand je vois les moniteurs. Nous, on loue le Seigneur. Le groupe de louanges nous encourage, on loue. Mais eux, ils ont des enfants. Et ce matin, il y avait deux chants qu'elles étaient en train de chanter avec les enfants. Mais je trouvais incroyable. Avec des gestes que les enfants aiment et qu'ils comprennent. Mais c'est parce qu'elles ont cette capacité de passer ce message aux enfants. Donc quand on pense au don d'enseignement, c'est vrai, on pense au pasteur, mais il faut penser à tous ceux qui enseignent dans l'église. Moniteurs, animateurs de groupes de jeunes, tous ceux qui enseignent dans l'église. Ça nous aide, n'est-ce pas? Parce que parfois on s'est cloisonné ou on n'a pas eu la bonne lecture des textes bibliques. Et ça ne nous aide pas à discerner notre service dans la maison de Dieu. Là, le thème prophétie, c'est un thème qui nous vient de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de ministère de pasteur. Donc, ceux qui étaient les porte-paroles de Dieu, on les appelait des prophètes. Donc, le prophète, c'est celui qui porte la parole de Dieu. Et c'est cette thématique qui est restée aussi dans le Nouveau Testament. Et vous savez bien qu'au premier siècle, la Bible n'était pas encore agencée dans un seul livre. Les livres étaient un peu partout. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit l'Église jusqu'au 4e siècle à rassembler tous les livres inspirés et à les mettre dans la Bible. Donc, jusqu'à cette période-là, Dieu suscitait des gens pour dire sa parole, pour parler de lui, pour parler de sa part. Et c'est ça, le ministère de prophète, celui qui parle de la part de Dieu, qui enseigne la parole de Dieu, qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de prophétie, vous pensez à quoi? Vous pensez à des gens qui ont des messages inspirés, n'est-ce pas? Qui ont dormi la nuit et qui ont eu des choses pour vous le matin. N'est-ce pas? C'est une petite partie du ministère des prophètes. La partie essentielle du ministère des prophètes, c'est de dire la parole de Dieu. La petite partie qui est la partie vision, hein, on les appelle les prophètes visionnaires, c'est une petite partie. Parce que quand on regarde tous les prophètes de l'Ancien Testament, la qualité majeure, c'est qu'ils étaient fidèles à la parole de Dieu. Et que quand même il y avait des faux prophètes, c'est eux qui venaient dire, non. Ça, c'est une prophétie de mensonge parce que Dieu n'a jamais dit ça. Comment ils pouvaient dire que c'est une prophétie de mensonge? Parce qu'eux, ils avaient la parole de Dieu. Ils la connaissaient. Donc d'abord, le prophète, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu. Ce n'est pas celui qui vient le matin en disant, Alléluia, Manuela, Dieu me dit ce matin pour toi, que les jours qui viennent, attends-toi à quelque chose. Ça peut exister. Et dans certaines églises, ça se fait tellement. Parfois il y a du vrai, j'en sais rien. Mais je trouve que parfois il y a beaucoup de folklore. Et que ça entraîne plus de conflits que de sérénité. Et que parfois on a donné une prophétie à quelqu'un, soi-disant c'est ton mari, et que le lendemain, ah c'est plus ton mari. On ne peut pas décréter que quelqu'un le mari de quelqu'un comme ça du jour au lendemain. C'est toute une vie ensemble que les gens vont vivre. Comment on peut faire ça? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrai qui donne des paroles. Je dis juste que même l'apôtre Paul dit, analysez toute prophétie et regardez si elle vient du Seigneur. Donc c'est un ministère. L'apôtre Paul dit, celui qui prophétise, qu'il le fasse. Mais dans l'analogie de la foi, c'est-à-dire que celui qui enseigne, il doit être d'abord lui-même enseigné par la parole. Il doit connaître tout l'ensemble de la parole. Sinon, il prend le risque de se tromper s'il ne connaît pas. Dans une réunion, il semble qu'une sœur, une fois, a dit, elle prophétisait sous l'extase, hein, elle était un peu, voilà. Dieu n'utilise pas les choses viles, Dieu n'utilise pas les choses viles. Ah, il y a un frère qui était là, il dit, ça, c'est pas vrai, ça. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu utilise les choses viles pour confondre les fortes. Donc ça veut dire que manifestement, cette sœur ne connaissait pas toute l'écriture. Si elle connaissait toute l'écriture, elle n'aurait pas sorti cette parole-là. Et que parfois, dans les milieux type charismatique, type pentecôtiste, même dans nos milieux aussi, on sort des paroles. Mais au fond, est-ce qu'elles sont en accord avec toute la pensée de Dieu? Quand on lit la Bible, on voit qu'elle est bien agencée. Que chaque auteur, quand il parle, il rattache toujours sa parole à toute la Bible. C'est pour ça que c'est un livre cohérent. Que celui qui prophétise, prophétise avec l'analogie de la foi. Parce que la parole qu'on libère au nom de Dieu est dans un ensemble qui s'appelle la Bible. Amen. Que celui qui enseigne, enseigne. Donc là, c'est l'enseignant, c'est le docteur, celui qui a une capacité particulière de nous transmettre les doctrines au point. Quand il l'explique, on dit, waouh, j'avais jamais compris comme ça, mais c'est tellement bien dit, c'est tellement clair, c'est tellement structuré. Et je peux vous dire, parce que j'ai été au bénéfice de ces ministères dans les facultés de théologie, tu as des gens comme Henri Blocher. Franchement, des doctrines peut-être compliquées ou des textes bibliques un peu obscurs, mais quand tu le prends, il te met en rapport avec toute la Bible, il te l'explique. Tu dis, ouais. Heureusement que Dieu donne des hommes comme ça à l'église. Et les commentaires bibliques qu'on a viennent de ces gens-là. Parce que Dieu les a suscités pour nous. Heureusement qu'on a des docteurs qui peuvent nous expliquer la doctrine. Et nous, derrière, on la reprend et on la explique aussi aux frères. Le ministère d'exhortation. Il dit que celui qui exhorte, exhorte. L'exhortation, c'est des frères et des sœurs qui savent encourager. Mais pas encourager avec des pensées humaines,
encouragé avec la parole de Dieu. Et quand on dit encourager, c'est pas juste dans le bon sens. Encourager, c'est aussi corriger. Quelqu'un qui exhorte, c'est quelqu'un qui peut te dire, tu es mon ami, tu es ma soeur, mais là tu es dans l'erreur. Parce que la Bible dit, ça te fait mal. Mais elle t'a dit la parole de Dieu. Et plus tard, tu dis, heureusement que cette soeur était passée. Heureusement que ce frère m'avait dit ça. Sinon. Et on reconnaît toujours des frères et des soeurs comme ça, qui ont cette niaque pour la parole, qui sont là toujours pour t'encourager, mais aussi pour... Et on a ce témoignage qu'eux-mêmes, ils ne le vivent pas parce qu'ils sont dans l'exercice de ce ministère, mais c'est les autres qui leur disent. À la dernière fois, tu m'avais dit ça. Ça m'a fait du bien. Et il faut reconnaître que ces dons-là, on n'est pas les propriétaires des dons. Déjà, c'est des dons. Donc, ça veut dire que ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Donc, c'est Dieu qui décide de nous les donner et nous, on en fait usage. Pour qui? Pour la communauté, pour les bien-aimés, pour les frères et sœurs. Mais ça n'avait pas dit qu'à chaque fois, bon, là j'extrapole un peu, mais il faut que j'arrête. Parce que par exemple, dans certains milieux, on dit quelqu'un a le don de miracle. Je reviendrai dessus dimanche prochain. Mais quand un miracle commence à être quotidien, est-ce que c'est un miracle? Si quelqu'un peut décréter à quel moment il va faire un miracle, c'est plus un miracle, c'est de la science. Parce que par définition, le miracle, c'est quelque chose de toujours exceptionnel, extraordinaire. Et là, je vais fermer vraiment la parenthèse, sinon je vais commencer. Campagne de miracle. Du 10 au 29 février. C'est-à-dire, ils ont décidé la période où des miracles vont avoir lieu. Ça peut être vrai, j'en sais rien. Mais ça me trouble quand même. Et généralement, on est plus attiré par ce type de dons. Mais des dons de service, là, il y a un don même, je ne sais pas si quelqu'un peut aspirer à ça. Le don de service, c'est le don pour organiser, pour être là dans l'église, pour faire plein de choses dans l'église. Mais ça, je pense que Dieu donne à beaucoup d'entre nous. Mais la plupart du temps, ça reste dans la main du conseil. Parce qu'on n'a pas idée qu'on peut être utile à ce niveau. Quand on rentre dans une église, il y a des besoins, il y a des choses à faire. À quel moment Dieu t'a mis à cœur de t'approcher d'Emile ou d'Éric ou de quelqu'un, dit, je vois ça, est-ce qu'on ne pourrait pas? C'est pour ça qu'il dit, je ne veux pas être un spectateur, je veux être un acteur. Au lieu de dire toujours derrière, ah là-bas ils ne font pas ça, ça suffit. Si Dieu t'a mis ça à cœur, approche-toi de ceux que Dieu a mis aussi pour nous organiser, pour leur dire, est-ce qu'on ne pourrait pas, est-ce que je pourrais aider? J'ai ça à cœur pour l'église. Souvenez de ce que j'ai dit la dernière fois. Quelle est ta vision pour l'église? Quelle est ta vision pour l'église? Le don de service, c'est ça. C'est un don pratique, matériel, organisationnel, là dans l'action. La main dans la tâche. Et puis celui dont je parlais tout à l'heure, je ne sais pas si beaucoup de chrétiens demandent ça, c'est le don de la libéralité. Seigneur, mets-moi à cœur de donner à l'église. Ah là là. Si nous on est église aujourd'hui, c'est parce que ceux d'avant, il y a beaucoup qui avaient ceux. J'avais à cœur de donner pour l'église. Et même si nous sommes là, c'est parce que les générations l'avons donné pour que cette église tienne. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse la transmettre aussi à d'autres? Bah, c'est des dons. Et là, quand on parle de libéralité, il s'agit de finances. Il paraît que c'est un sujet tabou. Je ne m'aventure pas plus loin. Je ferme là ce don de libéralité. Bref. Et enfin, il dit le don de miséricorde. Ceux qui ont à cœur, ceux qui restent. Nous tous, on est émus quand il y a des situations difficiles dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Un bon chrétien est toujours touché. Il a toujours envie, au moins, de prier pour la personne. Et même, il pense quelquefois à aider. Celui qui a le don de miséricorde, toutes ces étapes, ça se passe en même temps. En même temps qu'il a envie de prier, tout de suite, il va passer à l'action d'aider la personne. Il ne va pas prendre le temps de calculer qu'est-ce que ça va lui coûter ou ça ne va pas lui coûter. Il va se mettre dans l'action tout de suite. Parce que c'est cette capacité, parce qu'il a ce don-là, parce qu'il est comme ça, parce qu'elle est comme ça. Ça ne fait pas d'elle quelqu'un de plus sensible que nous. C'est son don. C'est pour ça qu'il dit avec modestie. C'est pour ça qu'il dit très tôt, on ne va pas se comparer les uns les autres. Mais si chacun accomplit sa capacité que Dieu lui donne, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la complémentarité.
S'il y a un ou deux d'entre nous qui sommes sensibles à des situations précises, des frères qui traversent des situations difficiles, gloire à Dieu. Parce qu'ils vont faire à notre place ce que nous faisons, ce que nous devons faire en tant qu'église. Dieu va les susciter aussitôt, ils vont y aller. Ils vont s'engager. Amen. C'est ça, la complémentarité. C'est ça, le don de miséricorde. Et enfin, je termine pour terminer. Peut-être que je vais ouvrir ça dimanche prochain. Comment découvrir alors nos dons? Comment aspirer? Comment vivre cette manifestation-là? La diapo d'après. Et je vous donne quelques points que j'ai tirés de plusieurs études. Ça commence par la prière. Seigneur, je suis ton enfant. Le thème c'était quoi? Je suis chrétien, je m'engage à servir. Seigneur, je veux m'engager. Et je l'ai bien précisé, le service de Dieu, c'est pour Dieu, dans l'église et pour le prochain. N'est-ce pas? Donc c'est ça, c'est l'environnement est plus large. La prière, je prie déjà. Seigneur, conduis-moi, guide-moi, oriente-moi. Ensuite, est-ce que je suis disposé? Parce que si je demande des choses à Dieu et que Dieu les active, est-ce que je me dispose? Est-ce que je... Voilà. Donc il y a une question aussi de disponibilité à regarder. Ensuite, il y a l'acquisition de la connaissance. Donc savoir, être enseigné sur les dons spirituels, comme ce qu'on fait ce matin, comme ce que je vais continuer dimanche prochain. Avoir l'information, avoir l'enseignement. Parfois on vit déjà ces choses, mais comme on n'a pas les critères pour les évaluer, on ne sait pas. Et une fois qu'on a des éléments, on dit « Ah, d'accord, je vois mieux. Ah, je comprends mieux. » Et parfois, on voit ça chez un autre frère ou chez une autre sœur. Parce qu'on pense tout de suite à quelqu'un qui nous a impacté. Et puis, il y a... Le mot « plaisir » n'est pas vraiment le bon mot. « Plaisir », ça fait trop émotion. C'est la joie. Hein? La Bible parle plus de joie. C'est une joie qui n'est pas qu'un sentiment. C'est cette... On est heureux d'avoir fait quelque chose, même si ça nous a coûté. Même si ça nous a coûté. On est heureux de l'avoir fait. Même si ça nous a coûté. C'est ça. C'est ça. Et puis de nombreux essais. Essais ici, ce n'est pas le sens d'essayer une voiture, non. C'est on apprend en faisant. On découvre en faisant. Si on s'assoit en disant, tant que je n'ai pas découvert, je ne fais rien, ce n'est pas la bonne attitude. C'est dans l'action qu'on découvre. C'est dans l'action qu'on affine, c'est dans l'action qu'on discerne. Donc il ne faut pas hésiter à s'engager, à faire. Et c'est en faisant qu'on discerne. Qu'on discerne. Et puis enfin, les résultats. Quels résultats ça donne? Quels résultats ça donne? Il y a des ministères de l'église que j'ai essayé. Au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que ce n'était pas là-bas. Et donc je me suis convaincu que ça valait pas la peine de continuer là-bas, puisque je voyais bien que voilà, non seulement j'étais pas très à l'aise, mais en plus je voyais pas de résultats. Donc on n'est pas dans le résultat pour le résultat, mais on est là. Est-ce que ce que je fais, ça bénit les frères, qui s'enrichit? Est-ce que ça apporte quelque chose? Si ça apporte pas beaucoup, c'est que peut-être je suis pas dirigé vers là-bas. Voilà. C'est des sujets tellement vastes que parfois quand on commence, on déborde le temps qu'on s'était prévu. Mais j'aimerais tellement que nous, les uns les autres, que nous puissions être encouragés dans le service de Dieu et que chacun puisse être à la place que Dieu veut pour lui. Mais c'est en apprenant, c'est en étant dans l'action qu'on va y arriver. Prions. Seigneur, merci pour ce temps de louange, d'adoration. Merci pour ce temps aussi où j'ai essayé d'expliquer ce texte de Romains à mes bien-aimés frères et sœurs. Ma prière, c'est que ces quelques partages puissent nous aider en tant qu'Église à continuer à te servir toi, à servir l'Église, mais aussi à servir notre prochain. Te bénissons, au nom de Jésus. Je m'excuse pour le temps qui est parti.